Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 7 juillet 2007, 777, il est exactement midi dans votre montre.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer, maintenant le supplément week-end avec le best of BD des 6 derniers mois. Suivi de ça, c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires de l'infirmerie et très chargé le tour. Suivi de, ensuite à 15h, Zarma Farai, c'est du reggae, 17h Big Bang, 18h Vie d'ordure avec nos amis punk, 19h Made in France, nouvelle émission pour été, 20h la CTRO, expérience électro bien barrée, 21h30 UQ Step avec 9 Love. Bonjour et bienvenue d'Asketch avec vous, dans un supplément week-end un petit peu allégé comme ça. Ouais, je me suis dit, hier on a bien fait la fête, voilà, c'est pas faute d'avoir préparé les chroniques, donc du coup je me suis dit, bon allez, un petit best-of pour le coup, parce que ça fait un an que j'ai rencontré Chantal, l'élu de mon cœur. C'est pas de la chance ça, merci à Toulouse Carnet, c'était un 7 juillet, c'était l'an dernier, aujourd'hui c'était aujourd'hui c'est le 777, on sait jamais. Donc aujourd'hui, ben 10 BD à lire comme ça, par surprise, cet été, je pense que ça devrait vous plaire. En attendant, rien que pour toi mon cœur. DJ Rap, it's good to be alive. Vous êtes sur FMR 89.1 MHz, bonjour et bienvenue.
It's good to be alive.
Allez, on va jouer à un petit jeu assez rigolo. D'habitude, les chroniques de l'émission sont mises en ligne, rassemblées dans un billet. Dans un blog, donc qui est le blog de l'émission. Vous cherchez Supplément Week-end Podcast ou Supplément Week-end FM, vous allez tomber dessus. C'est mis en ligne le lendemain de l'émission et dessus il y a l'émission enregistrée que l'on peut réécouter librement. Là pour une fois, l'émission en direct, donc samedi 12h06 sur l'horloge atomique de la station, et d'ailleurs je ne vois absolument pas l'heure, c'est loupé. Vous pouvez consulter le billet en même temps, c'est-à-dire tout simplement si vous allez sur le site de la radio www.radio-fmr.net, vous rentrez dedans et sur la gauche il y a une colonne supplément week-end spécial 777 numéro chance et 10 BD de l'été. Alors ça tombe bien puisqu'en fait les chroniques sont déjà écrites, donc s'il y a une BD qui vous intéresse, qui vous plaît, vous allez pouvoir relever immédiatement si ça vous intéresse, si vous avez un ordinateur sous la main. Sinon vous pouvez revenir plus tard sur le site de la radio, il n'y a pas de souci. Pendant une petite semaine, ça va rester en ligne de manière visible, donc sinon il va falloir chercher au fond. Et puis voilà. Donc vous allez pouvoir un peu voir les BD qui nous ont plu. Là, ça a été très dur de faire une sélection, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a près de 2000 nouveautés qui sortent cette année. C'est un record absolu dans le monde de l'édition et de la bande dessinée francophone. 2000 BD, ça fait 20 bouquins qui 4000 BD en fait. Il y a 20 bouquins qui sortent par jour ouvrés dans les librairies. On n'a pas le temps de tout lire. Personne n'a le temps de tout lire. Tellement que c'est volumineuse et énorme. Et du coup, ça descend très vite en dehors des linéaires. Là, on vous en a choisi 10 sur les 6 mois qui sont passés. 10 qui nous ont plu, qui nous ont intéressés. La première d'entre elles, il s'agit de Jidi, une dessinatrice chinoise que l'on a reçue sur cette antenne il y a deux semaines, qui était très intéressante, qui en ce moment est en dédicace à Paris au Japan Expo qui a lieu en ce moment même. Et donc c'est le deuxième tome de My Way qui vient de sortir en français chez Chiaopan. Et dans le premier tome, on en savait assez peu sur V, un personnage qui se contentait d'écouter des histoires d'amour contrariées, avec un cœur épinglé sur son habit en haute forme. V, en fait, ce personnage principal de My Way a une histoire. Le lecteur apprend dans ce deuxième tome sa tragédie. Du coup, on comprend mieux son absence d'attache, son envie de voyager, de profiter dès maintenant des rencontres. Le voyageur cherche des histoires plus tristes que la sienne. Le premier tome était une suite de rencontres où V croise des histoires d'amour où l'incompréhension et la séparation ont laissé des regrets. Le second tome parle de la mort, de la fin, du temps qui passe et des regrets éternels. My Way, c'est une bande dessinée sensible, incroyablement touchante, en couleurs numériques, avec un graphisme faussement naïf, des histoires finalement qui sont vraiment qui nous marquent, des personnages aux orbites vides et semblant sans réelle expression, on est touché par chacune de ces histoires. Et on continue à suivre cet étrange personnage dans les lieux non nommés, sans indication de date, mais sûrement très proche de soi finalement. My Way, le tome 2 de Jidi. Et sorti en juin dernier chez Chiaopan, c'est une bande dessinée chinoise plutôt sentimentale et assez triste. Et très mélancolique, mais alors absolument superbe. J'ai oublié d'annoncer aussi qu'aujourd'hui c'est le dernier jour des festivités de Samba Résille, l'école de salsa de samba, de Toulouse, qui est basée normalement à Arnaud Bernard à l'origine, et qui donc fête ses 15 ans. Donc il y a plein de festivités en ville en ce moment, faut en profiter. Cherchez bien Samba Résille. Le lien d'ailleurs, il me semble, il est sur le site de la radio aussi. changement total d'ambiance. Brian Wood, au scénario Ricardo, et au dessin d'ailleurs aussi, Ricardo Burchielli, qui l'assiste aussi au dessin, DMZ. C'est un acronyme anglais qui signifie zone démilitarisée, c'est un terme militaire. DMZ, le premier tome s'appelle Sur le terrain, a été traduit en français chez Panini Comics dans la collection Vertigo. Depuis 5 ans, les États-Unis se déchirent entre les USA et les FSA, Federated States of America. 300 000 habitants survivent dans un Manhattan, en plein chaos, entre deux camps. Coup de chance, pour la première fois, un cessez-le-feu semble tenir. Liberty News, une chaîne émettant côté USA de New York, en profite pour envoyer son reporter vedette en exclusivité mondiale. Un vrai, un pro, un Pulitzer. Recruté comme photographe stagiaire quelques minutes avant d'embarquer, Matthew Ross va être l'unique survivant d'un atterrissage sous le feu des snipers. Échappant par chance au massacre, récupérant par hasard le matériel vidéo, il devient de facto l'unique journaliste pouvant émettre des reportages depuis Manhattan, à l'intérieur donc de cette soi-disant zone démilitarisée. Il découvre vite que ceux qui y vivent ne sont pas des combattants, mais des gens qui n'ont pu fuir la guerre. N'ayant eu le choix des événements et subissant la violence quotidiennement, toute cette population a dû s'adapter comme elle a pu à ces conditions extrêmes, piégée en pleine zone de combat. Matt découvre qu'au départ, il était parti pour une opération de propagande, ce que l'on peut considérer comme un acte de guerre psychologique. Mais qu'à défaut d'être embedded, embarqué dans une unité militaire, il va gagner son indépendance de point de vue au lieu d'avoir une probable sécurité. Quand il va découvrir que le camp des supposés gentils appelle sécuriser, envoyer des bombes, il va vite comprendre qu'aucune guerre ne peut se targuer d'être chirurgicale. À la fois perdant ses préjugés et apportant un regard neuf, Matt va devenir un reporter sans camp réel. Une indépendance qui se préoccupe fort, puisqu'il va partager la vie de ses citoyens de la guerre, de ceux qui s'improvisent infirmiers ou gardiens de zoo, coincés dans la zone démilitarisée, à mon œil. Ce récit prend les tripes, une grande nation qui tombe en lambeaux, des restes d'une armée qui tire sur des civils en camouflant ça en franc-tireur. Là où Frank Miller fait évoluer sa Martha Washington dans une guerre SF quiche, Brian Wood montre crûment les horreurs de la guerre, des viscères éclatés, des projections de sang et surtout le plaisir sadique de tuer. Parce que la guerre, c'est le moment où les meurtriers en série sont tolérés dans les rues. Et c'est assez étonnant quand on repense effectivement au téléfilm, j'en ai parlé, de Joe Dante, la Seconde Guerre Civile. Surtout que finalement, dans 5 ans, ce sera les 20 ans de Sarajevo. DMZ offre un récit d'anticipation qui retourne les tripes. Graphiquement, Brian Wood s'associe à l'italien Riccardo Burchielli, qui n'hésite pas à montrer un New York en ruine. Un hommage vibrant au journalisme de guerre, le vrai, pas celui qui est embarqué dans les unités militaires, mais celui qui risque sa vie pour rendre compte des drames humains. Un pamphlet qui devrait aider certains à mieux réfléchir sur la notion de caution morale de la planète. C'est encore plus ironique quand on sait que tous les grands journaux télévisés américains du soir finissent par des plans de Broadway, où sont leurs studios, et que la grande presse américaine, inventrice du standard d'indépendance et de qualité, on peut quand même pas leur retirer ça, se fait rouler dans la farine depuis le début de ce millénaire. Saluons malgré les fautes de frappe, l'effort de traduction sur les graffitis, quand même assez intéressant. DMZ, tome 1 sur le terrain, scénario de Brian Wood, dessin de Brian Wood et Riccardo Burchielli. C'est dans la collection Vertigo chez Panini Comics. On reste dans le glock et le comics. Avec Warren Ellis au scénario. Warren Gore Ellis. J'aime bien son surnom qu'on lui a donné. Et non, c'est pas lui, c'est l'autre. Je confonds avec Garth. Garth Ennis, c'est différent. C'est pas les mêmes anglais. Et G.H. Williams III au dessin Desolation Jones, Made in England. Une histoire complète qui est sortie en français chez Panini Comics dans la collection Wildstorm. Michael Jones a sombré dans l'alcoolisme, une addiction pas vraiment recommandée dans n'importe quel métier. Surtout quand votre employeur n'est pas n'importe lequel, justement, le MI6. Consterné, les chefs des services secrets britanniques lui demandent de participer à une expérience. Desolation. L'agent Michael Jones sera le premier cobaye qui arrivera à en ressortir vivant. Une année de torture continue, sans aucun repos, qui lui a même fait perdre la peur de la mort. Et en tant que retraité très spécial des services secrets, il est assigné à résidence à Los Angeles, comme d'autres agents anglais et américains qui ont vécu l'invisible. Pourquoi LA ? Bah, pareil que dans cette ville, si tu croises quelqu'un de normal, eh ben, il vaut mieux se méfier absolument de lui. Coincé dans cette ville, comme dans une prison, Desolation Jones travaille pour la communauté d'anciens barbous branques qui zonent dans Los Angeles, cachant ses vieux démons à coups de tarpé et prêts pour tous les coups de taré. Comme ce colonel qui collectionne tous les films de cul qu'il peut trouver, il s'est fait dérober une pièce unique. Un film de cul dirigé et joué par Adolf Hitler himself. Dans quel trou Jones va-t-il fourrer son doigt ? Celui des productions de cul fauchés qui cassent des jeunes filles débarquées du Middle West ? Ou dans un cercle d'admirateurs du horror qui se branle à l'idée de créer une Amérique racialement pure ? Non, encore pire. Le scénariste glauque et ahurissant du ministère de l'espace et de la série télé Global Frequency se complaît à imaginer les complots les plus insoutenables. Ça lui plaît de nous mettre mal à l'aise et il adore recruter les dessinateurs qui vont nous faire gerber. Flippant, tripant, hallucinant, mais alors pas du tout pour les enfants. Desolation Jones, Made in England, c'est Warren Ellis et G.H. Williams III. C'est en français dans la collection Wildstorm de Panini Comics. Bon, une fois, c'est pas moi qui me débrouille avec le plat de spaghettis, c'est du sport. Même si les studios sont très clean, je vous dis pas dans quel est... comment sont emmêlés les micros et les casques. C'est le gros bordel. Je suppose qu'il voulait dire un mot sur Desolation Jones, je suis prêt à faire le pari, là. Et du coup, bah, il arrive pas à poser le micro en place proprement à temps. Hein ?
Ouais, on va y arriver.
Bah oui, non, bah attends, on est des pas pros, nous. On sait se démerder sans assistant, quand même.
Voilà. Hop. Desolation Jones. Justement, je voulais te poser une question, mais plutôt off, parce que j'ai lu une chronique BD dans un quotidien gratuit distribué à la sortie du métro.
Ouais.
Il y a une BD par jour, ouais, et il y a un nouveau Warren Ellis qui vient de sortir là.
Ouais, il y en a plein, il en a fait au taquet. Enfin, plus exactement, c'est qu'il y avait un énorme retard qui avait été pris par les éditeurs français. La passation des traductions entre Semic et Panini Comics. Et du coup, donc, Panini met vraiment le paquet en ce moment pour sortir toutes ses œuvres, justement, ou les rééditer. Des fois, faut pas se leurrer, hein, c'est des rééditions et en général, je l'indique.
Ouais, parce que j'ai l'impression que ce bouquin est antérieur.
Priest.
Je sais pas, je me rappelle pas. Est antérieur justement à Desolation Jones, qui par ailleurs est excellent. Et je crois me souvenir que Warren Ellis n'est pas anglais, il est écossais.
Oui, exact. Oui, pardon. Enfin, il est Royaume-Unien, il est écossais.
Pas anglais.
Ouais. Il est capable de débarquer avec une batte de baseball.
Ne dis jamais à un écossais qu'il est anglais.
Ouais, je sais, mais surtout lui, il est très très dangereux. Tu peux pas savoir. Ouais, en plus du sport, là, il va pas faire de télévision, puisque là, on se fait un best-of BD de la, du semestre, et peut-être qu'en cours d'été, du sport va faire une spéciale télé, ou, et peut-être que Thomas, du coup, va faire une spéciale cinéma, un peu, comme ça, là, de notre petit best-of personnel.
Ouais,
à mon avis, dans les DVD. Hein.
Non, mais t'as intérêt à te dépêcher, parce que au mois d'août, je suis en vacances, hein, c'est-à-dire que je mets le cerveau en vacances également.
D'accord. Une rappeuse canadienne, Nelly Lee. Son premier album, c'était Freedom. Elle était venue en 2004, si je me souviens bien, invitée par les copains de Radio Campus. Ouais, je fais la pub des fois pour les autres radios. C'est sur Radio FMR 89.1 MHz. Nelly Lee, I-C-U-T-O. I-C-U-T-O-O. C'est sur l'album Freedom. Je ne sais pas si c'est distribué en France.
I see you're caught up and confused, wrapped up in my melanin, mesmerized by the skin I'm in. Behind blue eyes, lust for black, barely suppressed, exotic, erotic, you think I'm a tigress. Still lusting after centuries of raping the house negress, you remain drawn to my sex oddness, with no intentions of ever bringing me home to mama. You just want to lust, thrust, show my body in trauma. I see you watching me. Eyes are focused on small breasts, small waist, and a body upon a cock, wishing you had the keys to unlock these rounded hips. As you lick your thin blue lips and whistle at me, I see you watching me.
I see you watching me.
Some say, united we stand and divided we fall. You know we're down when you think of the names of us all. We got black, African, American, Jamaican, and Haitian. Lest we forget the Sudanese and Ethiopian nations. We crawl divided, clutching on to all our different names. Fronting like original ancestors aren't all the same. Sister thinks I want her man when I look him in his eye. Brother thinks I want a slam when I look him in his eye. I see you watching me, but none of you will ever see me. No, none of you will ever see me. None of you will ever see me. No, none of you will ever see me. Pushing out stereotypes fed to you by the media hype. A mainstream society automatically envisions me as the enemy. The black widow, pushing pram, pushing rock, pushing babies from my underdeveloped hips. Deceiving the government with welfare tricks.
Why can't they make those laws more strict?
I see you watching me. Subconscious filled with stereotypical propaganda, creating for you my identity. And still your children dress up like wannabes, trying to be who they think I be. I see you watching me.
I see you watching me.
Oh, my brother. You saw me wearing some copper and thick silver, and instantly promoted me to conscious sister. With no attempts to ever know my mind, my locks and dashiki, you were happy to find. You call me queen, black goddess manifested in flesh. Eyes filled with all the insecurities of a little boy. And those same eyes tell me you want a tour with me.
With me.
Looking to me to carry you, to make you strong, to teach you all the new revolutionary song. Instead of finding strength in who you be, you decide you need me.
My brother,
and none of you will ever see me.
Eyes open, mind closed.
And none of you will ever see me.
Blinded by
afraid of ourselves.
None of you will ever see me.
I'm terrified, the manifestation of my very essence.
No, none of you will ever
you
see
forever,
me.
Nahila, I See You Too, extrait de son album Freedom, c'est le supplément week-end spécial les 10 de l'été 2007, pour le 777. On va enchaîner avec une bande dessinée politique, au premier sens du terme, Philip Cohen et Richard Malka au scénario, Rhys au dessin. Sarko Premier, c'est coédité par Vent d'Ouest et Fayard, c'est la suite en fait de la face cachée de Nicolas Sarkozy. Qui est pas Philip Cohen, déjà c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a écrit La Face Cachée du Monde. C'est un journaliste d'investigation très précis. Et Richard Malka, c'est quand même à la fois un très bon scénariste de bande dessinée, mais c'est aussi un avocat assez connu sur la ville de Paris. Bref, soyez sûr d'une chose, c'est que quand ils écrivent, ils font très très gaffe justement à ceux qui sont capables d'y mettre. Alors, Sarko Premier, le titre du livre a été choisi à l'issue du premier tour, c'était le jeu, c'est-à-dire qu'en fait ils ont fait le pari de sortir au plus vite cette suite. La première BD Enquête avait connu un succès phénoménal, ils se sont dit on en reprend le principe, mais on l'étend à l'ensemble des candidats du premier tour et uniquement sur la campagne des présidentielles juste passée quoi. Prépublié en temps réel dans l'hebdomadaire Choc, on ne connaissait le nom de l'album que depuis 15 jours et il relate l'ensemble des événements comme l'ont fait Serge Moati pour la prise de l'Elysée qui a été diffusée le lendemain même du second tour et Jean-Paul Lepers qui a été diffusé le samedi d'après le jour de gloire. On est dans le journalisme d'investigation, montage flash pour coller au plus près de l'actualité. Car c'est un véritable exploit. Les auteurs n'étaient pas encore dessus en janvier dernier quand nous les avions interviewés dans le supplément week-end. Philip Cohen produisait une série d'articles. Richard Malka défendait Charlie Hebdo dans son procès pour insulte. Où tous les politiques candidats ont défendu le journal satirique. Tous, sauf Ségolène Royal, figurez-vous. Et malheur au vaincu, ce n'est pas Sarkozy qui s'en prend plein la gueule, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais bien elle. Faut savoir quand même que Richard Malka est plutôt proche justement de Ségolène Royal, mais là... pas de cadeau. Les témoignages des dirigeants du PS promettent une sérieuse halali qui va durer. Néanmoins, le petit Nicolas, la bande des ultra-gauches, José Bové, Bérou, mais aussi Chirac, De Villepin et les instituts de sondage, tous en prennent pour leur grade dans cet album enquête. Les citations sont absolument savoureuses. Bref, on croyait avoir eu les présidentielles en surdose et pourtant non, on en redemande encore quand on a rarement vu une élection aussi discutée aussi intéressante en fait. La sortie est proche et la sortie de cet album était très proche des résultats qui étaient encore tout frais, mais on n'avait pas encore tout lu. Vu que l'outil de communication a pris le pas sur la politique, vu que l'appareil militant a été pitoyable, que les blogs engagés ont été absolument nuls en contenu, suivez mon regard. Moi je pense sérieusement à la pompeuse ségosphère préférant descendre les autres candidats plus qu'autre chose. Notamment justifier leur programme politique, ce qu'on attend finalement justement des militants et des blogs. Ce bouquin est absolument salvateur par son absence de langue de bois. Sarko Premier, la suite de la face cachée de Sarkozy, c'est de Philip Cohen, Richard Malka et Rhys. Et c'est co-sorti chez Vent d'Ouest et Fayard, et là aussi ça a pété un score dans le domaine de l'édition. C'est peut-être un bon bouquin pour savoir ce qui va se passer non seulement dans les rangs du gouvernement, mais surtout dans les rangs du PS. We'll be right back. je rappelle que les chroniques qui sont dans cette émission, vous pouvez les consulter déjà sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net. Vous regardez à droite, il y a marqué supplément week-end. Les 10 BD de l'été 2007. Ouais, je le répète deux fois parce que hein, c'est quand même un bel exploit qu'on a fait. C'était facile, on avait déjà tout publié. Fabien Vellman au scénario, Bruno Gazzotti au dessin. Fabien Vellman a fait une excellente BD. Ah mince, j'ai oublié le nom d'ailleurs. C'est Violine, voilà, au scénario. Et Bruno Gazzotti est entre autres le dessinateur de Soda. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est l'histoire de ce flic new-yorkais dont la mère est cardiaque. Et pour pas qu'elle s'angoisse trop, en fait, tous les jours, il se déguise dans son ascenseur en prêtre pour quand il rentre chez lui. C'était une excellente série qui était prépubliée dans Spirou, assez étonnamment quand même vu la violence qu'il y avait dedans. Donc Fabien Vellman au scénario, Bruno Gazzotti au dessin. Seul le tome 2 s'appelle Le Maître des Couteaux, c'est dans la collection Repéra chez Dupuis. Et dans le premier album, eh ben, 5 enfants sont les seuls rescapés de leur ville. Ou plus exactement, je dirais, sont les seuls habitants de leur ville. Tous les adultes, tous les autres enfants ont purement et simplement disparu pendant la nuit, sans aucune explication valable, sans aucune raison explicable. 5 jeunes qui eurent à apprendre à se débrouiller seuls et à se défendre face aux fauves d'un cirque qui se sont libérés dans une immense ville. Les frictions du début sont oubliées. Dodie et Leila, les plus grands, se sont lancés dans l'idée d'aménager un bus pour essayer de joindre une ville voisine afin de comprendre ce qui s'est passé. Il leur faudra beaucoup de patience pour arriver à gérer les plus jeunes. Terry ne songe qu'à collectionner autant de jouets qu'il peut. Camille a enfin son petit poney et Yvan vient de découvrir l'eau de feu et les bâtons tueurs. Le problème, c'est qu'ils sont encore des enfants et que leur survie dépend aussi de leur capacité à devenir très vite adultes dans leur tête. Bref, 5 gamins qui aimeraient bien que leur monde redevienne comme avant, avec les autres enfants et les adultes, avant qu'ils soient seuls. Du moins, ils croyaient être seuls. C'est une série absolument exceptionnelle. Dessinateur de Soda, donc Gazzotti, adore utiliser son trait franco-belge pour mettre en scène des histoires angoissantes. Et les couleurs saturées cachent soigneusement la noirceur de l'intrigue. L'histoire de Fabien Vellman nous laisse particulièrement en haleine, très bien conçue au moindre millimètre, et pourtant toujours prête à déraper au mauvais moment. De l'angoisse en barre. Seul le deuxième tome est donc sorti dans la collection Repérage chez Dupuis. Il s'appelle Le Maître des Couteaux, de Fabien Vellman et Bruno Gazzotti. L'angoisse continue. Jean-David Morvan au scénario, Francis Porcel au dessin, reality show. Le quatrième tome Reconquista Channel était sorti chez Dargaud en mars dernier. Mediacorp, producteur télé espagnol, a réussi le coup ultime qui rassemble audience et abonnements payants. mélanger Real TV et séries policières. Bon, c'est très simple comme idée. Suffit de demander l'exclusivité de l'enquête sur des meurtres réels à la police, et puis voilà. Oshi Feal, jeune aspirante policière, s'est ainsi retrouvée à devenir l'assistante de sa télé-idole favorite. Et du même coup, doit résoudre des affaires policières sur fond de tractations de showbiz et de coups tordus dans les backstage. Dans les deux premiers tomes, elle s'en est sortie grâce à son innocence, mais pas intacte. À son insu, une intelligence artificielle a implanté en elle des sortes de mouchards. Une aubaine magnifique pour les producteurs, parce que les réactions des protagonistes seront forcément plus naturelles en l'absence des caméras volantes. Oshii Feal ne sait donc pas qu'elle est on air 24h sur 24, 7 jours sur 7, chaîne continue non-stop sans arrêt même pendant ses rêves, et que les producteurs tentent d'en valider le concept auprès du CSA espagnol. Alors qu'elle est partie en vacances incognito à Grenade, superbe ville du sud qui a symbolisé la lutte entre les catholiques et les musulmans à la fin du 15e siècle. Mais en ce milieu du 21e siècle, les deux communautés se regardent toujours en chien de faïence depuis l'élection d'un maire musulman. Deux groupes terroristes, un intégriste musulman, l'autre intégriste catholique, mettent la région à feu et à sang. Et la fille du maire vient d'être kidnappée. Oshii ne se rend compte, assez vite finalement qu'elle ne reconnaît plus la ville de son enfance. Elle ne sait pas encore qu'elle entre dans un deuxième reality show, encore plus ignoble que le premier, et produit pas exactement par la même genre de racaille. Rien à redire sur le scénario de Morvan, assez politique et qui dose bien les dialogues et l'action dans cet album. Quant à Francis Porcel, il met en scène le futur de son pays avec talent. Cet album a une double lecture, celui d'enfoncer le monde de la télévision, univers des paillettes et du superflu, mais aussi celui de la politique et de la religion, univers des dogmes, des croyances et de la perversion des idées. Jean-David Morvan au scénario, Francis Porcel au dessin, reality show, le quatrième tome Reconquista Channel est sorti donc en mars dernier. Peut se lire indépendamment par rapport aux trois premiers tomes, mais je les recommande quand même très chaudement, et c'est donc chez Dargo. Grantway Morrison au scénario, G.H. Williams, Free au dessin avec Simone Blanchet au dessin, Cameron Stewart au dessin, Ryan Sock au dessin, Fraser Earing au dessin, Seven Soldiers of Victory. Le premier tome s'appelle Étrange Aventure, c'est le septième album de cette sélection d'albums de l'été. On est le 7 juillet 2007, on fait des 7, c'est la plage 7 d'ailleurs de l'album que j'utilise là en bande-son. Et c'est traduit en français chez Panini Comics. Ils sont 7 héros, 7 personnages de la mythologie DC, oubliés parmi la foule des surhommes de second plan pointant à l'Agence Nationale pour l'Exploit. Shining Knight, Guardian, Clarion, Bulletur, Frankenstein, Mr. Miracle et Zatanna. Grant Morrison, scénariste chevronné dans le justicier pervers à cap, souhaitait regagner une certaine liberté narrative dans le genre super-héros sans quitter le confort d'une grande maison d'édition comme DC Comics. Il a donc décidé de reprendre ses personnages et d'en faire un groupe de crossover, un peu comme la Justice League of America, et d'en faire ce qu'il en veut sans risquer des tonnes de foudre des fans de comics Quadracapitulator et Adipeux. Quadracapitulator, ça veut dire non seulement qu'ils ont une quarantaine bien tassée, mais qu'en plus on est coupeur de cheveux en quatre. Il reste à trouver aussi un groupe de seconde main, très peu servi, faible kilométrage, mais complètement à rénover. Le choix du scénariste s'est porté sur les Seven Soldiers of Victory, des personnages créés à l'apogée de l'âge d'or du comics, c'était en 1941, et dont le seul rescapé est Green Arrow, s'il vous plaît, qu'on retrouve dans la JLA, et où déjà y émergeait un certain Guardian. C'est un projet plutôt ambitieux et lourd que Grant Morrison a réussi à vendre à DC. 7 mini-séries de 4 albums, le chiffre 7 va revenir continuellement dans l'histoire et lui porte chance. Les personnages sont denses, la vie n'a pas été tendre avec eux. Ils sont plutôt dépressifs, tendance contagieux, mais surtout sur le plan de la réalité éditoriale, ils sont quasi vierges et on peut les sacrifier si on le souhaite. Se permettre des fantaisies même pas envisageables avec Daredevil, Flash ou Wonder Woman. Bref, le champ est libre pour que les auteurs en fassent ce qu'ils veulent, du velours. Et ça promet une réelle originalité. Des pirates grand siècle, écumant le métro new-yorkais, une magicienne qui a perdu le don de parler à l'envers, un héros de mythologie grecque envoyé dans le troisième millénaire, un justicier sponsorisé par un journal populaire. Tout est permis, même de citer graphiquement Tim Burton ou Philippe Drouillet. Si on devait prouver une fois de plus que le genre super-héros peut être vraiment adulte, cette série en est un exercice de style brillant. Grant Morrison au scénario, J.S. Winfrey, Simon Blanky, Cameron Stewart, Ryan Sook et Frazier Ewing sont les super-héros du crayon de Seven Soldiers Victory. Le premier tome en français chez Panini Comics s'appelle Étranges Aventures. Allez, la suite est extraite de la bande originale du dessin animé Cowboy Bebop, de la série Cowboy Bebop. À noter donc que c'est l'album Blue, plus exactement. Je l'ai déjà passé une fois et j'avais pas remarqué. C'est non seulement c'est les Seatbells qui font la musique derrière, menée par Yoko Kanno, qui est l'une des meilleures compositrices japonaises de bande originale, assez étonnante. Mais s'il vous plaît, à la voix, c'est Steven Conte, qui est l'actuel guitariste des New York Dolls et qui fait partie du groupe familial les Conte. Donc voilà, Call Me, extrait Cowboy Bebop. Rien que pour toi, mon petit cœur.
Down, got to get to you, but I don't.
Voilà, et pour information complémentaire, donc Yoko Kanno dans la série Cowboy Bebop, dont la moitié du budget quand même de la série était consacrée uniquement à la bande-son musicale, avait bossé entre autres à Paris dans le mythique studio Plus 30 avec Ceux qui marchent debout. C'est une fanfare parisienne que l'on voit notamment dans Chacun cherche son chat, interpréter un morceau pendant le film. Et Steve Conte, et apparemment elle s'entend très bien avec lui, puisque c'est notamment lui qui fait le générique de fin dans Ghost in the Shell Standalone Complex, donc la série. C'est lui qui chante le générique de fin à la fin du second tome, donc de la seconde saison. Donc en général, quand je dis attention, c'est un Zico, ça c'est exceptionnel. C'est à suivre. Je pense. De la Fée du Buc, on change complètement de sujet. De la Fée du Buc sort une série. Elle m'a été très chaudement recommandée par un copain qu'on apprécie beaucoup à la radio, puisqu'il s'agit d'Albert Algou, qui est un grand farceur, ce que vous voulez, et qui actuellement fait plutôt une rubrique littéraire sur e-télévision. Et là, il m'a dit, putain, mais franchement, Les Nombrils, tu vas adorer, c'est immense. Et effectivement, Les Nombrils, le deuxième tome s'appelle Sale Temps pour les Moches. C'est sorti en février du dernier chez Dupuis. Vous pouvez l'offrir les yeux fermés à votre nièce, à votre cousine, à votre petite sœur, pour le lui piquer, parce que non seulement elle va adorer, mais vous aussi. C'est franchement très très bon. Innocemment, dans un format de bande dessinée 48 pages, format A4, cartonné, édité chez Dupuis, avec des couleurs saturées et un dessin stylisé, on ne croirait pas que cet album est une œuvre subversive, capable de faire d'immondes ravages auprès des adolescents, massacrant leur philosophie de vie uniquement basée sur la mode, le paraître et la popularité entre élèves. Oui, Les Nombrils s'attaquent à la lutte des classes. Jenny et Vicky sont deux adolescentes, de purs produits de la société de consommation, deux consentantes victimes de la mode, tel est leur nom de code, dont la seule lecture politique est celle du salon de coiffure, des garces terribles qui se croient belles à coups de vêtements hors de prix. Deux lycéennes sans un seul once de réflexion, d'intelligence ou même d'humanité. Ces nombrils ne vivent que pour être vus par des garçons à condition express, qu'ils soient beaux, riches, beaux. Riche et disponible rien que pour elle. Plus exactement, l'une d'elles. Dans 20 ans, ce sont des épaves ruinées par une société de crédit revolving, mais pour l'immédiat, elles sont au lycée. En attendant, l'essentiel de leur vie, outre de draguer John John, parce qu'il a une moto vroom vroom, se consacre uniquement à pourrir la vie d'une fille qui croyait être leur amie. La pauvre Karine est trop grande pour trouver des vêtements de mode qui lui va. Elle est moche, manque de seins et un poil naïve. Et Jenny et Vicky sont suffisamment vaches pour lui faire croire qu'elles sont ses meilleures amies, allant jusqu'à lui faire tout faire pour lui saboter sa vie amoureuse, sa réputation, son moral. Et les mots peuvent faire très mal, surtout à l'adolescence, tranche d'âge très propice aux idées de suicide. Heureusement pour Karine, les deux cruches sont plus connes que franchement dangereuses. Futiles, ne voyant pas plus loin que l'étiquette de leurs fringues, leurs propres bêtises les faire dans d'ubuesques drames, des catastrophes propres à ruiner leur réputation et leur amour propre. Sauf qu'au lieu de les retenir pour se préparer à leur vie d'adulte, ces leçons ne rentrent jamais dans leur petite tête, toujours préoccupées par leur réputation plutôt que, par exemple, le bac. Comme en plus il arrive fréquemment que Jenny et Vicky se font des crasses entre elles, Karine a quand même un peu de répit pour se montrer plus mature qu'elle. C'est absolument immonde, infect, sans pitié. Mais alors qu'est-ce que c'est marrant. Les Nombrils, le tome 2 s'appelle Sale Temps pour les Moches, c'est de la Fée du Buc, c'est chez Dupuis. C'est une petite sélection perso du supplément week-end pour 10 BD à découvrir cet été. Eh ben, on va continuer avec littéralement autre chose. Apollo au scénario, Bruno au dessin, pro Biotop. Le premier tome donc est sorti dans la collection Poisson Pilote chez Dargo en janvier dernier. Et c'est un polar. Trois flics débarquent dans une base scientifique, seule présence humaine sur Biotope. Biotope est une planète totalement vierge et couverte d'une végétation luxuriante, en phase d'observation et d'études pour un futur probablement voué à l'exploitation effrénée de ses ressources naturelles. Trois flics dans un monde de scientifiques, d'ingénieurs et autres techniciens spécialisés qui ont un mois pour résoudre une affaire ou qui devront attendre 6 mois de plus pour un retour vers la Terre, la civilisation et l'atmosphère sururbaine qu'on devine correspondre largement mieux à leur mode de vie. Trois flics, Eunice, beauté d'ébène, au sang-froid impeccable et au regard scrutateur. Langevin, notre enquêteur aux propos cyniques et au flair sans faille. Et le commissaire Toussaint qui va tenter de tirer les choses au clair et surtout son équipe soudée. Car même s'ils semblent se tenir, leur discussion prend très vite un ton acide entre ces trois. Et le commissaire Toussaint espère bien que cela n'influera pas sur leur travail. Un travail mathématique, d'observation, de raisonnement et d'analyse, où l'équipe policière va utiliser des méthodes comparables aux scientifiques qu'ils suspectent. L'affaire pourrait pourtant sembler simple. Puisatier et Zadig sont deux homos en couple. Un dépit amoureux tourne mal, puis Zatier tue son concubin Zadig, puis se suicide le lendemain. Mais dans cette enquête de routine, les rancœurs entre les différentes équipes, les rumeurs et les soupçons laissent entrevoir que tout n'est pas aussi schématique. Toussaint, Eunice et Langevin viennent d'arriver par navette, mais ne se doutent pas encore dans quelle barge ils viennent d'embarquer. Ambiance design rétro-futuriste années 1960-70, avec son monde technique en niveau de gris, le lieu de détente club disco dont les uniques fréquentations ne sont pas franchement amicales, et le monde extérieur d'un vert intense, sujet à la fois des observations, des ambiances, mais surtout de l'enfermement. Les sorties de là-bas se font compte goutte, les protagonistes restent dans leur coquille de plastique, effrayés à l'idée de souiller de leur blanche chirurgicale et stérile une planète aux richesses immaculées. Apollo avait été distingué par mes pairs comme scénariste de la grippe coloniale, Vent d'Ouest. Il a donc reçu le prix de la critique en 2004. Bruno s'est fait remarquer avec Nemo, reprenant le personnage de Jules Verne chez Très Étrange, repris par Milan. Les aventures de Michel Swing, parodiant celles de Michel Vaillant, toujours chez Très Étrange, Milan. Et Inner City Blues, avec les codes de la Blaxploitation chez Vent d'Ouest. Le mélange est étonnant, unique, et laisse un grand mystère. Celui de la collection où se retrouve cette série. Poisson Pilote est censé être une collection d'humour. Sauf que Biotope est un polar, un vrai polar, avec les codes du genre et celles de la science-fiction. Apollo au scénario, Bruno au dessin, Biotope, le premier tome donc, qui est sorti dans la collection Poisson Pilote chez Darko. Satoshi Yamada est l'auteur de Docteur Koto. Docteur Koto, voilà. L'accent sur le haut signifie que le haut est allongé. Le premier tome, on en est au quatrième, si je me souviens bien. Et donc c'est une série qui est en cours de publication dans la collection Bikana chez Kana. Dans les séries des Toubib, il y a les petits et les très grands bobos, des corps meurtris, des cris, des larmes et du sang. Et des gens en blouse blanche qui lancent des noms barbares dans l'urgence tout en essayant de garder leur calme. Et dans le genre manga à la urgence, on pourrait citer le vénérable Black Jack d'Osamu Tezuka, l'histoire d'un médecin marron, immensément talentueux, traduit en France chez Glénat, dont le réalisme est accentué par le fait que le maître du manga avait passé un doctorat de médecine tout en peignant de la bande dessinée à la tonne. Il y a plus récemment Say Hello to Black Jack en France, traduit aussi chez Glénat, qui tient plusieurs reportages fiction et qui est à notre connaissance la seule bande dessinée à être à l'origine d'une loi sur les droits sociaux. Le docteur Koto Kensuke, lui, est très différent. Il a ses maladresses, supporte mal le bateau, la chaleur et cet air éternellement fatigué mais souriant. Les habitants de l'île de Koshiki ont vraiment du mal à lui faire confiance. Qu'est-ce qui pourrait motiver un médecin d'aller s'enterrer dans une petite île à l'écart de l'archipel japonais? Une île qui vieillit puisque les jeunes préfèrent la ville, dont la seule industrie est la coopérative de pêche et l'unique infrastructure médicale, un petit dispensaire qui a connu des jours meilleurs, avec des moyens indigents et très légers, peut-être suffisant en bulbologie, mais pas vraiment en cas de détresse médicale. Et puis, les derniers médecins à avoir géré cette officine, soit étaient taïwanais, baragouinant un vague japonais, soit manquaient sérieusement d'expérience. La moindre erreur de diagnostic peut être fatale à 6 heures de bateau du plus proche hôpital. Docteur Koto est pourtant loin d'être un manche. Il a exercé au CHU de Tokyo, où il s'est montré chirurgien de talent. Mais pourquoi, alors que sa carrière ne fait que débuter, s'enterre-t-il sur ce rocher? L'envie d'une île calme et paradisiaque à d'autres. Même l'infirmière Ayaka, 22 ans et native de l'île, doute sur les motivations de ce drôle de personnage. Et la méfiance des habitants n'est pas là pour l'aider. Qu'il fasse un exploit comme une opération d'appendicite sur un bateau de pêche ou la pose d'un clip sur un anévrisme, non, c'est une population de marins pêcheurs, de personnes âgées assez conservatrices, par exemple sur la médecine des plantes, par rapport à l'allopathie et la médecine hospitalière. Bref, le chemin va être très long pour que le docteur Koto soigne réellement les gens. Un écho étonnant à la maladie de Sachs, dont les syndromes furent si bien écrits par un certain Martin Winkler. Takatoshi Yamada, docteur Koto, le premier tome donc était sorti en janvier dernier, on en est au quatrième, c'est dans la collection Bikana chez Kana. Et cela clôt donc une sélection de 10 bouquins que je vous ai choisi personnellement dans les 6 derniers mois d'une activité éditoriale assez intense dans le milieu de la bande dessinée. Si vous voulez retrouver toute la sélection, faites-le dès maintenant. Dès ce samedi à 13h01 sur le site de la poubelle des radios www.radio-fmr.net. Et là, vous retrouvez donc les 10 bouquins dont on a parlé. Et là, on marque une petite pause avec Shirley Basset. Peut-être que du sport aurait 2 bouquins à parler. Ce qui ne va pas parler de télévision aujourd'hui, il va parler de machin de roue qu'on se met dessus et ça roule tout seul. C'est magique. Shirley Basset. Light My Fire, remixé par Kenny Dop. C'est le supplément week-end sur Radio FMR. Nous sommes le 7 juillet 2007, 777. Joyeux anniversaire, mon cœur. c'est une alto assez précieuse et impressionnante, puisque Shirley Bassey, outre donc cette chanson qui a été reprise entre autres par les Doors, eh ben elle a fait
Non, c'est les Doors qui ont fait la version originale.
Non, je crois que les Doors c'était une reprise.
Non.
Ah. Non, oh là non, là, non, attention, non. Là je me bats avec un spécialiste du disque, ça va gueuler. Elle a fait les génériques.
Tu vas te faire assassiner là, quoi. Tu vas te faire assassiner.
Elle est sortie là. C'est pas cool. Hein. tout ça pour dire quand même qu'elle a fait des génériques de très célèbres James Bond, entre autres Diamonds Are Forever, Godfinger.
Mais c'est la seule qui en ait fait deux, en fait, qui ait fait la chanson titre de deux James Bond, parce que sinon il y a toujours eu des.
A toujours roulé.
Ça a toujours été dans l'air du temps. Hein,
attends, il me semble qu'il y en a une qui a fait trois.
Cite-moi là, laquelle
C'est, si je me trompe, c'est Permis de tuer, elle avait déjà fait précédemment.
À vérifier,
ouais. On n'a pas le net sous la main. Si vous voulez, vous pouvez répondre directement. Vous allez sur le site de la radio www.radio-fmr.net. Vous allez dans le truc de l'émission de cette semaine, carrément. Vous laissez un commentaire en direct. Je me prendrai la fessée à mon retour. Voilà.
Ouais, mais ne croyez pas tout ce qui est marqué sur le net, de toute façon.
Ça dépend où. Voilà, donc quelques BD dont on voulait parler.
Moi juste une, hein, c'est la dernière que tu m'as.
Oui, que je pouvais pas mettre dans le best-of parce que j'en ai parlé la semaine dernière. C'était un peu trop just.
Ouais. Et c'est un petit peu dommage hein, parce que là, c'est vraiment. T'en prends plein la gueule, hein, c'est la Cité de la Lumière. De. Je sais plus qui.
Je vais te le dire. Inio Asano, donc c'est un manga, donc c'est une collection Made in chez Kana. C'est une collection adulte. Voilà.
Ouais, adulte hein, quand même, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, le propos est vachement adulte. Hein. Ça démarre très lentement, très doucement, comme ça. Hein,
on voit rien venir. Hein.
Non, dans un quartier d'une cité au Japon, un quartier pour classe moyenne, on va dire. On apprend par la suite que pratiquement la majeure partie des gens qui habitent dans ce quartier, sont plus ou moins employés par le même patron hein, qui a construit l'ensemble de ce truc-là. On saura par quel moyen un petit peu après la moitié du livre. Et au départ, alors comme tu m'as prêté le bouquin juste après m'être tapé, je m'étais fait les deux Gogo Heaven à la suite
oui.
Après l'autre.
Ça parlait de suicide là
j'attaque,
aussi.
J'attaque le bouquin, c'est pareil, ça commence avec une petite vague de suicide, on va dire. Alors je me dis, tiens, bon ouais, c'est le même thème, il n'y a pas de problème. Mais, ça change radicalement au bout d'un certain moment parce qu'il commence à y avoir une enquête policière. Et moi, ce que j'ai adoré, en fait, hein, c'est la fin. La fin qui est tout à fait somptueuse. On va pas dévoiler parce que c'est terrible, hein, c'est terrible. Enfin, c'est vachement beau, hein, c'est incroyable, quoi, de toute façon, quoi. Il faut aussi dire que, paradoxalement, c'est un bouquin qui est fortement déconseillé hein, pour les gamins. Ça, y a pas de problème, c'est pas pour eux. Hein. Mais les personnages principaux sont quand même des ados ou des gamins. Et c'est là que justement le propos est très cru et très cruel, on va dire, hein, par certains moments. C'est vraiment admirable hein, là, franchement.
Mais surtout, ce qui est impressionnant, voilà, c'est un bouquin qui est format A5. Les tons colorés sont verts, légèrement jaune et blanc. Le dessin, c'est un paysage urbain avec un bus qui vole, donc on se dit ouais, c'est un truc contemplatif et tout et c'est vrai que le début de l'histoire, on ne s'attend vraiment pas à ça. Prendre dans l'ambiance et ferrer mais alors jusqu'au bout quoi.
Non mais c'est parce qu'à partir du moment où le bus s'envole en fait que ça part vraiment
en live
à fond, mais c'est magnifique hein, de toute façon quoi. C'est un bouquin là vraiment au niveau manga là, c'est très très fort, très fort hein, franchement quoi.
Attention, c'est un gros spécialiste série policière qui vous dit ça.
Mais c'est pas tellement le propos policier en fait. Hein. Le propos policier est un petit peu.
Non, mais c'est un polar. Il n'y a pas vraiment de policier quoi. C'est un polar au sens, je dirais, d'enquête urbaine au niveau de. Sociologique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un polar sociologique de ce côté-là.
Je parlerais plutôt de roman noir quoi. Mmh. Parce que bon, les flics ont quand même vraiment une part à jouer, mais c'est la portion congrue hein, vraiment quoi. Mmh. C'est bon.
Ils sont gentils les flics.
Ouais,
hein.
Ils sont gentils quoi. OK. Sinon vite fait alors quand j'avais commencé à préparer je m'étais dit tiens, je commence par une petite revue de presse vite fait et tout quoi avec le surtout le SoFoot spécial été, alors là, ne pas louper, hein, là, il est comme d'habitude excellent, c'est pour les deux mois à venir.
Une excellente interview de Jean-Michel Larquet qui se lâche un petit peu, hein, c'est bien. Un article sur Robert Louis Dreyfus, mais un article à charge qui s'appelle Bob l'éponge. Et là, je peux vous
assurer que
C'est pas triste parce que bon bah, hein, on le présente comme le patron de l'OM, comme un personnage bon enfant, sympa, gentil et tout. Mais non, non, non. Si c'est un mec qui est extrêmement riche, qui a du pognon à craquer,
comme
c'est parce que c'est un putain de requin, quoi. Vraiment, quoi. Et qui dit putain de requin, ça veut dire cou en douce et tout ça. Sinon, il y a également
mais Bob l'éponge, oh les salauds.
Un article dossier sur le football et les gitans, parce qu'il faut savoir que les gitans, même s'ils n'ont pas de ville, s'ils naviguent de ville en ville, ce sont des nomades. Eh ben, il y en a quand même qui ont joué au foot et qui ont compté dans le football. Il y a une interview de Didier Super à propos du foot. Alors là, c'est rigolo parce qu'il n'aime pas tout ça. Et il y a surtout, alors là, ça c'est le truc qui tue, quoi, vraiment. De toute façon, ici à FMR, depuis le premier album, hein, c'est-à-dire 97 je crois, de La Rumeur, c'est un des meilleurs groupes de hip-hop du monde, sans problème.
Oui, oui, là-dessus,
les meilleurs d'accord. En France, ça, on peut dire il y a Rockin' Squat encore et quelques un ou deux autres qui arrivent peut-être même pas au niveau, mais presque, tu vois. Mais La Rumeur, là, vraiment musicalement parlant et au niveau du hip-hop, quoi, il y a rien à dire. De toute façon, le dernier album est peut-être un peu moins bien, moi je trouve, quoi, que l'album précédent, mais c'est toujours de la super qualité. Et là, dans l'article, dans l'interview de La Rumeur par les mecs de SoFoot, hein, qui a très à propos du foot, bien sûr. Alors là, ça déchire vraiment, pour prendre un langage de jeune. Là, c'est vraiment ok. Il n'y a rien à dire, hein, de toute façon. Donc, rien que pour cet article, rien que pour cette interview, faut acheter SoFoot. Hein, vraiment, si vous n'aimez pas le foot, mais que vous aimez le hip-hop, bon, c'est généralement, ils aiment bien le foot, les hip-hoppers, quoi. Pour l'interview de La Rumeur, là, ça.
C'est plutôt basket, hein. Il commence à être de plus en plus branché basket que foot.
Non, sport de combat, le foot, bah ouais, si, quand même, parce que bon, bah, hein, on est en France, quoi. Je parle des hip-hoppers français, hein, bien entendu. Voilà, tout ça, donc, et plein d'autres choses, hein, dans le SoFoot spécialité, avec les jeux à la con, en plus.
Oui, c'est un numéro de spécialité.
Ouais, mais bon, déjà, les mots croisés, t'es mort de rire et tout, quoi. Bon, je les fais pas parce que c'est trop facile, quoi. Mais bon, là, ça vaut vraiment le coup. Et sinon, quand j'avais commencé à préparer l'émission, je me suis dit, tiens, on pourrait faire encore un petit truc Heroes, bien sûr, il faut en parler, hein, quand même. Hein, les trois épisodes de ce soir, c'est le numéro 4, numéro 5 et numéro 6.
Sachant que le 4, c'est le vrai démarrage, à ce qui paraît, d'après ce que j'ai compris.
Ouais, parce que, si tu veux, dans le série TV qui vient de sortir, spécial Heroes, hein, c'est un numéro spécial, c'est le numéro 2. En numéro spécial, il y avait déjà un spécial Lost. Là, c'est un spécial Heroes, donc vachement plus intéressant. Il y a toute une partie, et là c'est bien parce qu'ils ont foutu ça à la fin, ça s'appelle Spoiler Zone, quoi. Donc si vous voulez pas savoir ce qui va se passer durant la première saison,
c'est là où je vais mettre à chanter en mettant
non mais je ne dis rien du tout, hein, pas, de toute façon je l'ai même pas lu, hein, de toute façon ça ne m'intéresse pas. Par contre, plein d'interviews, hein, des personnages principaux de Sandy Ramamurti, Adrian Pazdar, Masioka, Milo Ventimiglia, Greg Grunberg, Tim Kring, Jack Coleman et tout ça. Bref, c'est vraiment très très bien, hein. J'avais déjà parlé de Série TV qui est un magazine un petit peu sérieux sur la culture des séries. Moins, il y a quand même les posters au milieu, quoi, mais bon, c'est pas le truc fan de base complètement bête comme Sériscope ou ces espèces de trucs là. On laisse tomber. Série Mag et tout ça, ces espèces de trucs où t'as plus que des images. Le rédactionnel, c'est que dalle, c'est de la merde, faut bien le dire, quoi. Mais là, c'est quand même relativement intéressant, quoi. Ça s'achète, hein, de toute façon, quoi. Et je peux quand même vous dire que dans la saison 1, on les a pas vus, mais ils vont apparaître, surtout en deuxième partie. Il y a plein de références, on en avait parlé la semaine dernière, plein de références au monde des comics, au monde de la culture geek en général, même des références aux autres séries, hein, des séries connues. Et on va voir apparaître dans la série, dans la deuxième partie de la saison, George Takei. Ah oui, Monsieur Sulu, ouais. Il y a également Malcolm McDowell qui va apparaître. Il y a également Eric Roberts, le grand Eric Roberts. Oubliez Julia. Eric Roberts est vachement meilleur. C'est un excellent acteur. Allez. Tout ça donc dans le série TV spécial, donc Heroes.
Et voilà, bah ce sera tout, hein, de toute façon. Quoi.
Oui, on avait, ouais, enfin, ouais. J'avais décrété que ce serait léger. Il est 13h16 et du sport a besoin de se presser s'il veut avoir le temps de bien vous faire rire avant le lancement du Tour de France décalé pour cause de décalage horaire. Oui, bah, t'es ouais, toujours
c'est...
à l'antenne.
Bah, ouais, c'est juste pour vous dire que dans l'équipe d'aujourd'hui, bah, hein, c'est spécial tour donc. Ah. Mais comme le départ est en Angleterre, eh bien la une est entièrement en anglais.
Oui, et ils peuvent le titrer ça. God Save the Tour, parce que franchement, les précédentes fois où à chaque fois ils ont dit cette fois-ci le Tour de France sera propre. C'est dommage, dans la machine un jingle, une fois qu'elle est lancée, je peux pas mettre autre chose en même temps. Mais sinon, j'aurais bien mis. Richard Virenque, pour le coup, hein, parce que là, on attend de voir ce que ça va être. Mon avis. Mais là, enfin, l'amende, elle va être chaude. Du Sport va vous en parler de suite pour donc son magazine d'actualité sportif, cycliste, roulesque et médicamenteuse, suivi. À partir de 15h, non d'abord en plus à 14h, la deuxième heure de Du Sport sera consacrée pour se foutre de la gueule des cyclistes à une spéciale musique de voiture. Suivi à 15h de Zarna Farai, j'ai vu les disques, ils sont pas mal. Hein. C'est du reggae, 17... c'est du reggae. Je crois que c'est toujours considéré comme stupéfiant, non d'ailleurs le... c'est pas ça, franchement. Excusez-moi. À 17h Big Bang, 18h Vie d'ordure, c'est du punk, 19h Made in France, c'est une nouvelle émission qui a lieu cet été, donc soyez indulgents et on va les écouter gentiment pour voir ce que ça donne. 20h Castéropod, ah non c'est mal écrit, c'est la Cetero Experience, excusez-moi, et 21h30, ça fera un super temps, et 21h39 là c'est du two-step sur FMR 89.1 MHz. Nous sommes en direct jusqu'à 5h du matin, les chroniques des 10 BD que je vous ai choisi et du Quartier de la Lumière d'ailleurs, peut-être demain. En tout cas, toutes ces chroniques sont déjà présentes sur le site internet de la radio si vous nous écoutez en direct. Sinon, ben, vous suivez le billet où vous avez téléchargé le fichier, le sonore que vous nous écoutez en ce moment. Voilà, il est 13h18 sur la poubelle des radios, 19 minutes, excusez-moi, sur la poubelle des radios. Je vous laisse bien à vous. Bon été, éclatez-vous bien. Nous, on va faire programme continu. Voilà, on va essayer de ne pas trop s'arrêter cet été. Bah, non, quand même, il y en a qui restent. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, ciao, bye. Bien à vous, et n'oubliez pas quand même. De vous protéger quand même. Ça tombe bien, hein. Cette année d'ailleurs, la première des protections, c'est qu'il n'y a pas de tube de l'été. Et ça, c'est quand même appréciable.